Mais ce n'est pas tout. »
Il s'est retourné, désignant du doigt la porte de la chapelle. Elle s'est ouverte et Armand Vialard en est sorti, menotté dans le dos, escorté par le curé et trois gendarmes. Le groupe s'est arrêté. Monsieur de Caulemont avait réglé la scène comme une cérémonie tragique.
Le criminel avait un complice, son frère.
Nouvelle rumeur dans les rangs.
Oui, messieurs, le pupille Vialard a avoué aux gendarmes.
Il a croisé les bras, toisant le prisonnier.
Oui, le pupille Vialard s'est confessé à l'abbé.
Je ne pouvais pas lever la tête.
Il a aidé son frère à fomenter ce forfait.
Le directeur nous a regardés, désignant son prisonnier du doigt.
Mais celui-ci n'était probablement pas son seul comparse.
J'ai cessé de respirer. Il a eu un geste méprisant de la main. Il congédiait le fautif et son escorte.
Voilà donc le pupille Vialard qui nous quitte.
Caulemont a brusquement ordonné.
Regardez-le.
Nous nous sommes tournés vers le triste équipage. Les gendarmes étaient gonflés d'importance. À les voir bomber le torse, on aurait pu croire qu'ils venaient de capturer le chef du Guenadu. L'année précédente à Rennes, le groupe autonomiste breton avait détruit ce qu'il appelait le monument de l'annexion, célébrant l'union de la Bretagne et de la France, la duchesse Anne pieusement agenouillée devant le roi Charles VIII. À l'occasion de l'un de ses sermons, notre chapelain avait durement condamné cet attentat. Mais pas le Goff. À la messe, assis dans la rangée, le surveillant s'était signé discrètement et il avait souri. Le héros de Verdun venait du Finistère. Il priait et jurait en breton. Pourtant, ce n'était pas un poseur de bombes que les gendarmes promenaient encordés. Seulement Armand Vialard, 16 ans. Gamin de l'assistance, notre mère publique. Un voleur de pain, attendu au tribunal de Vannes pour complicité d'incendie volontaire, et qui serait déporté au centre pénitentiaire d'Ess, là où son frère de 13 ans serait aussi conduit. Les militaires se sont mis en marche dans la cour des ateliers comme à la revue, direction le corps de garde et la porte d'entrée. Leur détenu n'était plus qu'un dos courbé.
« Regardez-le bien !»
Le bouc avait les mains sur les hanches.
« Regardez la brebis galeuse quitter le troupeau qu'il avait accueilli !»
Le sermon était terminé. Il est descendu rapidement de la chaire, tandis que Chautan tapait dans ses mains. Direction, le réfectoire, en rang par trois. Les frères n'avaient pas parlé. Aucun d'eux ne m'avait dénoncé. J'étais à la fois soulagé et inquiet. Quelque chose n'allait pas. Une menace pesait quand même sur moi. Depuis l'entrée du directeur dans le grand préau, les moniteurs me surveillaient, le Goff surtout, qui épiait mes réactions. Et lorsque Caulemont nous a vivement ordonné de regarder partir notre camarade entravé, c'est moi qui l'observais. Moi et moi seul. J'étais installé en bout de table dans le réfectoire lorsque Napoléon s'est approché.
« Suis-moi, Bonneau !»
J'ai reposé ma timbale, joué l'étonnement. « Maintenant ?» Il a levé le menton, glissé une main sous sa vareuse et plaqué l'autre dans mon dos. J'ai regardé l'insigne qu'il portait au revers de son uniforme, une tête de mort en bronze sur une croix de feu dorée et deux glaives croisés.
« Maintenant !»
a répété Napoléon. La porte de l'atelier de matelotage était ouverte. L'immense pièce servait de timonerie et de salle d'honneur, mais aujourd'hui, elle avait été transformée en prétoire. Chautan, le Goff et deux maîtres timoniers entouraient le directeur, assis derrière une table à cartes. Un pupille était à genoux dans le couloir, visage tourné contre le mur, dans la position du puni qui attend son tour. Tous me regardaient durement. Cette fois, c'était pour de vrai. Napoléon m'a poussé dans le dos au milieu de la pièce.
« Entre, Bonneau !»
a soufflé Caulemont. Mon affiche était étalée devant lui, posée à l'envers. D'un geste de la main,